l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Omar Youssef Souleymane, journaliste franco-syrien et auteur de nombreux ouvrages dont Les complices du mal, qui fait un parallèle entre la montée de l'islamisme et de l'antisémitisme, avec beaucoup d'extraits de votre parcours personnel, on y reviendra. Vous avez infiltré les milieux de l'extrême gauche, les manifestations de soutien à la Palestine, où le combat légitime des Palestiniens a été totalement instrumentalisé et fait d'Israël aujourd'hui le diable. Omar Youssef Souleymane, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez quitté la Syrie en 2012 pour des raisons de sécurité évidentes. Aujourd'hui, en France, vous êtes sous protection policière dans nombre de vos déplacements, une reproduction familière qui vous inquiète et c'est le thème de votre livre, le parallèle entre ce que vous avez vécu en Syrie et ce que vous vivez ici aujourd'hui en France.
Tout à fait, parce que ça révèle des souvenirs graves. Vous voyez, au moment de mon séjour en Syrie, surtout pendant la guerre, la révolution syrienne de 2011, qui est devenue une guerre civile, ou même avant, c'est-à-dire pendant les manifestations, surtout pendant la deuxième intifada de l'année 2000, entre 2000 et 2005. Moi, à une période de cette intifada, j'étais déjà en Arabie Saoudite, que j'ai vécu très mal ces manifestations où on appelait à assassiner les juifs, ou même le mot juif a été une insulte. Et bien plus tard, il y avait pas mal de manifestations qui encourageaient, par exemple, pendant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, on manifestait pour encourager Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah pour aller encore plus loin et détruire l'État hébreu. Et j'ai vécu pile poil les mêmes slogans, la même ambiance, ici en France, place de la République à Paris.
Ce que vous avez vécu, vous, en Syrie, ce que dans l'éducation que vous avez eue, le mot juif avait une connotation, c'était le diable, c'était l'ennemi à éliminer. Vous avez grandi dans ce narratif-là, qui est souvent d'ailleurs repris aujourd'hui dans les slogans de l'extrême gauche.
Malheureusement, il est repris et il est toujours présent au Moyen-Orient. Effectivement, j'ai vécu dans cette ambiance, je n'étais pas le seul. Toute ma génération. Et cela, en fait, vient d'abord de l'islam politique qui instrumentalise le texte religieux, le texte coranique pour ses propres intérêts. Ici, en France, cet islam politique a trouvé ses complices, ses collaborateurs, qu'il s'agisse des députés de la France insoumise. Et tous les deux, chacun a son propre intérêt. C'est-à-dire, d'un côté, l'islam, les islamistes, les dirigeants des frères musulmans en France, les associations palestiniennes, les plus radicales, qui diffusent un discours séparatiste et antisémite. Ils souhaitent avoir des intérêts politiques. Et depuis la loi de 2021 contre le séparatisme ici en France, ils n'ont plus cette possibilité de créer un parti politique islamiste. Donc, ils ont trouvé chez la France insoumise un cheval de Troie pour arriver au moins à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça, en fait, on trouve qu'il y a des députés, des candidats pendant les élections législatives de 2024 qui ont un passé islamiste extrêmement grave. Chez la France insoumise, ces députés ont trouvé aussi, chez les islamistes, un intérêt électoral parce qu'ils savent qu'en France, on a la plus grande communauté musulmane, on a plus que 5 millions de musulmans, et ces musulmans allaient voter pour eux, ce qui était fait malheureusement en 2024.
Et c'est le cas, vous le dites, mais où est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience? Tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Aujourd'hui, des musulmans qui se sentent français, bien intégrés, entendent votre discours à vous?
Rien n'est pire pour les musulmans en France comme l'islam politique. C'est-à-dire quand on parle de l'islam politique, quand on parle des frères musulmans, on ne parle pas des musulmans, on parle d'une idéologie extrêmement radicale qui envisage à opprimer toutes les communautés, y compris les musulmans. Regardez par exemple les Syriens, les plus croyants, habitants dans la ville de Raqqa en 2015, qui est devenue à l'époque la capitale de Daesh. Daesh, c'est l'instrument des frères musulmans, le produit des frères musulmans. La plupart de ces Syriens, les plus croyants, ont fui Daesh. C'est-à-dire, l'État islamique ne convient pas, même les musulmans les plus pratiquants, l'islam politique, je veux dire. Donc, C'est pour ça que je pense qu'effectivement, les musulmans en France, ils sont tellement divers. On a un musulman qui ne quitte pas la mosquée, d'autres qui ne quittent pas le bar, un troisième qui traite l'islam comme une simple culture, il ne croit même pas en Dieu. Mais c'est ça, en fait, le plus dangereux dans le discours islamiste, c'est que regrouper les musulmans, avec leur diversité, autour d'une seule identité, les réunir à travers la peur des autres, les séparer des autres, créer d'eux une communauté à part de la République pour des avantages et des intérêts politiques.
De l'eau à l'eau, le slogan traduit en français de la mer au Jourdain, le slogan du Hamas, hein, aujourd'hui repris dans le narratif de jeunes Français acquis à cette cause. Comment les islamistes ont insufflé ces termes de propagande dans la bouche des jeunes, et là où ça peut être surprenant, que ce sont des jeunes instruits des universités françaises, et d'ailleurs de toute l'Europe.
Ils ont trouvé une complicité, c'est que d'un côté, le discours décolonialiste, anti-impérialiste, anti-capitaliste, dans lequel ces jeunes sont complètement engagés, il est aussi adopté de la part des islamistes. Donc ces jeunes, quand ils vont dans ces manifestations, moi je les ai vus dans les manifs, ils sont manipulés par ce discours en pensant qu'ils sont en train de lutter contre le colonialisme. Ce n'est pas vrai en fait. Ils sont en train de lutter pour les pires des colonialistes qui s'appellent les islamistes. Donc ils sont manipulés et je pense que ça c'était extrêmement grave. Ils sont utilisés, par exemple, dans le 8 septembre 2024, la plupart des présents autour de moi, quand j'ai filmé un islamiste qui s'appelle Elias Demzalen, au moment de son appel à faire l'intifada à Paris et dans la banlieue parisienne et dans plusieurs villes dans le monde, la plupart des jeunes qui m'entouraient, c'était des jeunes, comme vous dites, universitaires. Et ils répétaient l'intifada et l'encourageaient pour continuer. Or, ils ne savaient pas ce que c'était l'intifada. Donc, ils jouent aussi avec leur déconnexion de l'histoire du Moyen-Orient, malheureusement.
Il y a quelque chose que j'ai découvert, moi, dans votre livre, c'est que le point commun des pays du Moyen-Orient est l'idéologie nazie. Elle débute avant la guerre de 1939-1945. Et Hitler promettait aux Arabes installés à l'époque en Palestine l'anéantissement du peuple juif. Il y avait une convergence aussi.
Effectivement, et on parle souvent de Mufti de Jérusalem à l'époque, Amin al-Husayni, qui a visité Hitler. Et ils se sont mis en accord comme quoi Husayni allait fonder ce que l'on appelle l'armée des musulmans, qui faisait partie de l'armée nazie, où le nombre était 20 000, à peu près 20 000 musulmans. Et en échange, Hitler a promis à Amin al-Husayni d'éliminer la communauté juive au Moyen-Orient. Or, ce qu'on constate pas souvent, c'est une autre complicité bien plus grave, ou même de la même gravité, de même danger, c'est la complicité entre Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, et les nazis. C'est-à-dire aussi, il y avait une complicité entre la source, l'origine des frères musulmans et les nazis dans les années 20 pour le même objectif. Même il y avait des compléments de la part de Hassan al-Banna envers les nazis. Vous voyez, comme quoi ils sont des vrais hommes, ils sont des combattants, etc. Et il y avait en échange une admiration de la part de Hitler envers les islamistes. Qui les qualifiait en tant que pareil, comme quoi pour lui c'était le soldat musulman, c'est l'exemple de soldat le plus courageux. Moi je trouve que c'est atroce. Et figurez-vous que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles qui appellent leur enfant Hitler, en Cisjordanie, dans le sud du Liban. Mon père, il était fan de Hitler. Mon père traitait Hitler comme un grand homme, un combattant, et un homme de courage et un homme correct. Et la raison principale pour laquelle il l'admirait, c'était qu'il détestait le juif, parce que pour lui, pour mon père, les juifs sont la source du mal du monde.
Ils sont totalement déshumanisés. Alors, pour revenir à la nazification, aujourd'hui, il y a eu un travail effectué en Occident pour dénazifier dans les programmes scolaires, par exemple. En revanche, au Moyen-Orient, il n'y a pas eu ce travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre cette nazification du Moyen-Orient?
Je pense qu'il faut d'abord lutter contre l'islamisme. Ouais. Ça, c'est le plus important au Moyen-Orient. Et surtout, changer les manuels scolaires. Oui. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que plusieurs pays arabes ont commencé à se réveiller. par rapport à la question, y compris l'Arabie Saoudite. Hein, ouais. C'est-à-dire ce discours dans lequel j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence en Arabie Saoudite, où on admirait Osama Bin Laden, on admirait le discours djihadiste. Aujourd'hui, il est tellement indésirable. Ouais. Il est indésirable dans les manuels scolaires, mais il est aussi présent chez les gens de ma génération. Ouais. Et l'État, il est très sévère, très très fort. Enfin, je veux dire, très strict par rapport au sujet. En Arabie Saoudite, en Émirats, aux Émirats Arabes Unis, même en Jordanie aujourd'hui. Oui. Et cela ne veut pas dire que les islamistes ne sont pas présents. Si, ils sont toujours présents. Mais il y a un changement par rapport aux années 2000.
En revanche, ici, en Occident, en Europe, sur les campus américains, la prise de conscience est longue à se mettre en place.
Évidemment. Regardez, il y a un rapport qui a été sorti il y a quelques jours de la part des Émirats Arabes Unis qui ont alerté, enfin qui ont, comment dire, limité l'accès de leurs jeunes étudiants aux universités au Royaume-Uni. Parce que pour eux, les universités du Royaume-Uni sont déjà pourries par les frères musulmans. Vous voyez le décalage, ça fait rire et pleurer quand même, vous voyez ce paradoxe. Et donc, effectivement, ici, on a, moi, je résume notre politique en Europe par la naïveté. On est tellement naïf par rapport à la question.
On parlait de narratif, on parlait de propagande. Aujourd'hui, d'où vient l'impunité des institutions, de l'ONU ou des ONG qui, aujourd'hui, ont un narratif, le narratif des islamistes, hein?
Alors, d'où ça vient? D'un côté, c'est de la culpabilité occidentale, je pense, qui référencie souvent la question d'Israël au colonialisme et l'association entre la cause israélienne et d'autres causes qui n'ont rien à voir avec, comme la cause, par exemple, algérienne. Regardez par exemple la députée de la France insoumise, Rima Hassan, qui l'a répété plusieurs fois. Pour la incarner dans l'esprit des gens ici, en Occident, comme quoi ce que la France a fait en Algérie est similaire à ce que l'Israël fait contre les Palestiniens. Moi, je trouve que c'est un discours tellement manipulateur, surtout envers les jeunes. Et vous savez bien que ce sont les jeunes qui s'occupent une bonne partie du travail à l'ONG ou ailleurs. Vous voyez.
Sur la communication de l'extrême droite aujourd'hui, qui se montre ami d'Israël, vous pensez qu'il y a une instrumentalisation du discours, hein?
Effectivement, il y a de l'instrumentalisation de la part... parce que voir le passé de RN, c'est pas si engagé pour la question des Juifs, ni pour Israël d'ailleurs. Oui. Donc, il y a toujours cette instrumentalisation politique, bien sûr.
Quel est votre regard aujourd'hui, alors on va un petit peu dévier de votre livre, sur la révolution iranienne et où justement la jeunesse, j'entendais encore juste à la radio le président de l'UEJF dire qu'il n'y a aucun des étudiants qui ne bloque aucune université pour la révolution iranienne, il y a un paradoxe.
Il y a d'abord, c'est une révolution ambitieuse, d'un courage imprécédent, d'une puissance incroyable, où les jeunes, les femmes et les hommes sont dans les rues pour combattre le régime dictatorial le plus intégriste du monde. D'un autre côté, ici en Occident, surtout dans le média ou pour certains collectifs qui se représentent engagés pour les droits humains, ils sont d'une lâcheté remarquable de ne pas soutenir cette révolution et en même temps qui se représentent comme des défendeurs des droits des Palestiniens. Alors regardez, selon les chiffres, aujourd'hui on a à peu près 20 000 personnes qui ont été tuées en Iran de la part du régime de Mollah en 3 semaines. Un chiffre qui est incomparable par rapport aux victimes à Gaza. Donc je me demande ce qu'ils attendent, les collectifs ici, pour s'engager pour l'Iran. Mon analyse est simple, c'est que puisque le système iranien se présente comme un système anticapitaliste, il se trouve cohérent avec les propos des collectifs dits engagés pour les droits humains et aussi ils sont complètement opposants à la politique de l'Occident.
Quel est votre regard, vous, aujourd'hui, et surtout votre souhait sur qui pourrait se passer la situation politique en Syrie, Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, de votre regard de spécialiste de la géopolitique?
Oui, d'abord, en fait, la Syrie, c'est une question très compliquée parce qu'aujourd'hui, c'est un pays divisé en plusieurs. Et le gouvernement syrien actuel, ce n'est pas un gouvernement patriote, c'est un gouvernement guidé, contrôlé et dominé par les Turcs. Voyez. C'est-à-dire, pour comprendre la situation en Syrie, il faut vraiment comprendre comment les Turcs dirigent la politique turque, tout simplement. C'est un gouvernement soumis aux Turcs d'un côté et une partie au pays du Golfe, surtout, je dirais, le Qatar. Malheureusement, l'avenir, c'est pas si lumineux par rapport à la Syrie. Voir la situation économique aujourd'hui, voir la corruption qui fait penser d'ailleurs au régime de Bachar al-Assad, voir la dictature religieuse, voir la censure individuelle envers les Syriens, les civils, je veux dire, comment ils s'habillent, avec qui ils sortent, comment ils parlent, etc. C'est insupportable. Oui. Donc tout ça, ils divisent de plus en plus le pays. Ils mettent la tension entre les communautés, ça c'est le plus dangereux. Il se trouve qu'aujourd'hui, quoi, les Druzes dans le sud de la Syrie, ils sont en train de fonder, ils font tout pour fonder leur propre État, et ils ont tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux djihadistes, au pouvoir. Les Alaouites, il y a toujours des enlèvements, des massacres, des enlèvements des femmes, et on n'en parle pas, malheureusement, souvent. Les Kurdes ont appris la leçon, donc ils ont gardé leurs armes et ils sont des combattants depuis toujours. Justement, la Syrie est déchirée aujourd'hui.
Omar Youssef Souleyman, donc auteur des Complices du Mal, merci infiniment pour votre
interview.
Merci
à vous. Merci.
L'invité de la rédaction.